Vous nous suivez à partir du quartier Masangambila, ici à Kinshasa. Il est 12h, une heure de plus au village Whisky, dans le Grand Katanga.
Radio Kapi. Oh, Kapi.
Et voici la grande édition de la mi-journée présentée par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. Les parlementaires congolais ont repris le chemin du palais du peuple à Kinshasa ce mardi. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat est revenu notamment sur les multiples drames qui ont endeuillé la nation pendant que les députés se disent vivement préoccupés par la précarité de la vie de leurs électeurs rencontrés au cours des vacances parlementaires. À Lubumbashi, démolition hier de plusieurs maisons de commerce érigées sous les lignes haute tension dans la commune annexe. C'est pour éviter les catastrophes comme celles survenues au marché Matadi Kibala à Kinshasa. C'est ce qu'explique l'autorité urbaine. Et puis, l'invité de ce midi, Gertrude Kitembo, présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema. Elle dirige l'organe délibérant, composé essentiellement des hommes, et nous parle des défis ainsi que le secret de sa réussite. Madame, Messieurs, bonjour. Le Sénat a procédé ce mardi à l'ouverture solennelle de la session parlementaire de mars, conformément à l'article 115 de la Constitution. Dans son discours, le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, est revenu notamment sur les multiples drames qui ont endeuillé la nation, comme celui de Matadi Kibala et l'accident du train au Lualaba. Cependant, en marge de cette ouverture, plusieurs députés se disent vivement préoccupés par la précarité de la vie de leurs électeurs rencontrés au cours des vacances parlementaires, retrouvant sur place au Palais du Peuple notre permanent Michel Kifindangoy.
Au cours de cette session éminemment politique, plusieurs défis attendent l'Assemblée nationale et le Sénat, tant sur le plan législatif, sécuritaire et du contrôle parlementaire. Dans son discours, le président du Sénat s'est montré attentif aux préoccupations de la population et exige une gouvernance orthodoxe du pays. Peu avant l'ouverture de la session au Sénat, les députés nationaux placent la situation sécuritaire et l'examen de la loi électorale parmi les priorités. Jacques Joly et Léon Mondolé.
Obligé, n'est-ce pas, d'aborder la loi électorale.
Le vote de la loi électorale, ainsi que tous les autres instruments juridiques indispensables pour l'organisation des élections, constituent la principale attente pour cette session.
Au regard de la précarité des vies des Congolais, le contrôle parlementaire s'impose comme une priorité, ajoute Christelle Vuanga.
La question des routes, où on avait promis un projet Kinshasa zéro trou, qui n'a souffert que d'effets d'annonce. Il y a également la question du RAM. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout cet argent récolté?
Les parlementaires promettent des sanctions sans complaisance à tous les mauvais gestionnaires. De Palais du Peuple, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, à Lubumbashi, plusieurs maisons de commerce érigées sous les lignes haute tension dans la commune annexe ont été détruites lundi sur décision de l'autorité urbaine. Les propriétaires sont autorisés à exercer leurs activités ailleurs où les conditions sécuritaires sont garanties. Pendant ce temps, dans la commune de Kampemba, la police continue à traquer ceux qui vendent le long de la voie ferrée. Jean Gandou, reportage.
Cette opération s'est déroulée notamment sur la route des poids lourds, communément appelée route de contournement, et sur l'avenue Biaï prolongée, non loin du marché Moïse. Les détenteurs de toutes ces maisons ont assisté impuissants à la destruction de leurs bâtisses. Il s'agit notamment des kiosques, de boucheries, des boutiques et même de pharmacies. Pour l'autorité municipale, c'est pour éviter les catastrophes du genre de celles survenues au marché de Matadi Kibala à Kinshasa que cette opération a été enclenchée. D'après Rémi Mounsensé, les détenteurs de toutes ces maisons avaient été plusieurs fois sensibilisés pour qu'ils vident les lieux, mais la plupart ne voulaient pas s'exécuter. Et la démolition va se poursuivre aussi sur d'autres sites, prévient le bourgmestre de la commune annexe. Par contre, dans la commune de Kampemba, le marché appelé Rail, situé le long de la voie ferrée de la SNCC, a été délocalisé vers un autre érigé non loin de là. Tous les vendeurs y sont accueillis gratuitement. Cependant, certains n'ont pas voulu bouger et ont continué à étaler leurs marchandises le long des rails. La police les traque pendant que la SNCC délimite des déjà ses installations qui s'étendent sur 25 mètres de part et d'autre des rails. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la force syndicale nationale Focinat qui dénonce des coupes de 10 000 à 15 000 francs congolais dans la prime de gratuité, coupe opérée selon elle par certains gestionnaires d'écoles dans la province du Congo central. Méliès Ndelo, rapporteur national de ce syndicat, l'a déclaré hier à Radio Okapi. Il demande au ministre de l'EPST d'intervenir pour mettre fin à cette pratique afin de permettre aux enseignants de percevoir la totalité de leurs primes. Méliès Ndelo, rapporteur national de Focinat, joint par Alain Rumouchinj.
La force syndicale nationale dont je suis le rapporteur national condamne avec la toute dernière énergie le comportement indigne de certains gestionnaires d'école au niveau de la province du Congo central. Imaginez-vous qu'ils sont en train d'enlever un montant allant de 10 000 francs à 15 000 francs dans les 30 000 francs de la prime de gratuité sous prétexte de l'application d'un frais dénommé frais communautaire. Et qui du reste n'a aucun profil juridique. Il s'y est effectivement de noter qu'en ce qui concerne la prime de la gratuité, lancée doit percevoir son 30 000 francs sans commission ni rétro-commission. Et nous profitons de votre micro d'ailleurs pour solliciter l'implication personnelle de son excellence monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tonimo Bakazadi, afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'enseignant perçoive son 30 000 francs de gratuité au grand complet.
Province de Lomami, signalant le lancement hier à Cabinda par le gouverneur intérimaire du projet d'équité et de renforcement du système éducatif, PERS en sigle. C'est un projet du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique au sein duquel le Fonds des Nations Unies pour la population s'emploie à mettre en place un dispositif permettant de prévenir les exploitations et abus sexuels dans le milieu scolaire et assurer la prise en charge multisectorielle des survivantes. Esther Ndalafina nous en dit plus.
Le lancement du projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS a été suivi d'un atelier de formation à l'intention des membres des syndicats des enseignants, ceux de la société civile ainsi que de cadres provinciaux de l'EPST de la province éducationnelle Lomami 1 et 2. Pendant 3 jours, les participants vont élaborer des procédures opérationnelles standards concernant les violences basées sur le genre dans le milieu scolaire. Jean Mangangoy, ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a affirmé que ce projet vient répondre à certains défis et réguler le comportement des enseignants.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo, via les projets, trouve nécessaire d'appuyer la vulgarisation du présent code de bonne conduite du personnel enseignant, appelé code VND, afin de réglementer les comportements interdits quant aux actes de violence et de maltraitance de toutes sortes d'élèves, en particulier et les violences sexuelles et celles basées sur les genres.
Signalons que le projet PERS de l'EPST est financé dans 10 provinces de la RDC par la Banque mondiale à hauteur de 800 millions de dollars américains. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Santé. La province du Kwilu vient de recevoir un lot de plus de 280 800 doses de vaccins anti-Covid. Ils sont destinés aux antennes de Bandundu et de Kikwit, soit 24 zones de santé du Kwilu. Et c'est dans le cadre de la campagne de vaccination qui sera lancée d'ici le 25 mars en cours, a indiqué le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV. Irène Mboma nous en dit plus.
Les préparatifs pour le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus se déroulent normalement dans la province de Kwilu. Le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination, qui le dit, affirme que cette province vient de recevoir déjà un lot important de vaccins essentiellement constitué de 3 types. Docteur Steve Matoma explique.
La province de Kwilu a reçu au total 280 885 doses de vaccins de 3 types. Nous avons le Pfizer, Moderna et Johnson. Et ces vaccins répartis dans 2 antennes, l'antenne de Kikwit avec 18 zones de santé et l'antenne Bandundu avec 6 zones de santé. C'est dans les préparatifs de la campagne de la vaccination contre la COVID. Vous savez que nous sommes déjà dans les préparatifs, ça fait un peu longtemps. Fort possible qu'à partir du 25, que son excellence monsieur le gouverneur de province puisse s'en lancer officiellement le début de la campagne. C'est pourquoi avant de lancer, le préalable c'est d'avoir les vaccins.
Docteur Matoma précise que cette quantité de vaccins récit va couvrir les 10% de la population attendue qui est de 272 414 personnes. En attendant, rappelons que la vaccination des routines contre la COVID-19 se poursuit toujours dans 2 villes du Kwilu, à savoir Bandundu et Kikwit. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Du côté du Congo central, le sous-bureau de l'Organisation mondiale de la santé a présenté hier le projet de recherche active des cas avec dépistage communautaire de la maladie à COVID-19 et de la trypanosomiase humaine africaine. Le médecin épidémiologiste de l'OMS Congo central qui a présenté ce projet à l'issue d'une cérémonie organisée par la Division provinciale de la santé indique que ce projet contribuera à couper la chaîne de transmission du coronavirus et à l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine dans les zones endémiques du Congo central. En relançant la lutte contre ces maladies, le but est de les éradiquer définitivement. Nana Plurich Mambou pour les détails.
À travers ce projet, les sous-bureaux de l'Organisation mondiale de la santé des Matadi affirment vouloir remettre en ordre le programme qui ont souffert durant la riposte contre le coronavirus, à l'instar de la trypanosomiase appelée aussi la maladie du sommeil. Selon les présentateurs du dit projet, Dr. Richard Letucheke, cette maladie tropicale négligée ayant une allure chronique et souvent asymptomatique connaît une résurgence dans les anciens foyers si les activités de surveillance ne suivent pas. Ce projet de 9 mois consiste à la lutte conjointe trypanosomiase et COVID avec les dépistages communautaires couplés à la vaccination par l'utilisation des tests et des diagnostics rapides dans 18 zones endémiques du Congo central. La phase pilote est de 3 mois. Elle ne concerne que 4 zones de santé, dont celle de Kimpese, Lukula, Kwilungongo et celle de Inga. Durant 9 mois, les équipes mobiles multidisciplinaires des recherches actives des cas de ces deux maladies seront déployées dans ces zones endémiques. Outre les dépistages, celles-ci vont organiser la collecte et le transport au laboratoire des échantillons des cas suspects COVID-19 ou de trypanosomiase avec tests de diagnostic rapide invalide ou négatif pour une microscopie de confirmation. Les coûts de ce projet financé par Find est de $300,000. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu, à Butembo, plus de 500 prisonniers parmi les 740 de la prison centrale de Kakwangura n'ont jamais été jugés. Certains sont poursuivis pourtant pour des faits graves, mais ont passé plusieurs années déjà en détention sans avoir rencontré leur juge naturel. Ces faits sont rapportés par l'ONG Réseau pour les droits de l'homme, RIDO, à l'issue d'un monitoring effectué lundi sur les conditions de détention dans cette maison carcérale. En réaction, le capitaine Raoul Kibamako, chef de parquet militaire détaché de Butembo, appelle le RIDO et tous les justiciables à l'apaisement. Plus de détails avec Florida Kahambo.
Seuls 170 prisonniers de Kakwangura sur 740 sont en train de purger leur peine après être condamnés par leur juge naturel. Le reste, soit 770 détenus, sont tous des prévenus qui n'ont jamais été jugés ni condamnés par les tribunaux. L'ONG de défense des droits de l'homme, RIDO, qui les rapporte, déplore la lenteur dans le traitement de leurs dossiers. Maître Mouindo Wasivinois, coordonnateur du RIDO, explique.
Ce qui est plus grave, il y en a ceux qui ont passé plus de 4 ans. Maintenant, nous, on se demande, est-ce que ce sont les enquêtes qui continuent. Quand quelqu'un est poursuivi pour association des malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel, coup et blessure, aggravé, ce sont des infractions qui sont sévèrement punies. C'est vraiment une question où l'autorité, surtout judiciaire, devrait se pencher pour que les gens sachent leur sort le plus tôt possible.
Contacté à ce sujet, le chef du parquet militaire détaché de Butembo, le capitaine Raoul Kimbamako, indique que l'installation incessante du tribunal militaire de Butembo permettra le traitement de tous ces dossier. D'après lui, la lenteur constatée est due à la dépendance au tribunal militaire garnison de Beni, dont les magistrats sont débordés par le volume des dossiers. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
La représentation extérieure de la MUCA a saisi les organisations internationales des droits de l'homme, à savoir Amnesty International, Human Rights Watch et FIDH en France. C'est pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'arrestation arbitraire, séquestration et enlèvement de certains de ses membres. Albert Mukulubundu, porte-parole en Europe de cette plateforme de l'opposition, dirigée par Martin Fayulu et Adolphe Mouzito, l'a annoncé ce mardi à Radio Kapi. Il explique que la MUCA mène cette démarche après un constat d'échec dans les démarches auprès des instances judiciaires en RDC. Albert Mukulubundu, porte-parole en Europe de la MUCA, joint par Alain Irong Moshinj.
C'est après un constat d'échec des démarches menées auprès des instances judiciaires en République démocratique du Congo que la représentation extérieure de la MUCA s'est vue dans l'obligation de saisir les organisations internationales de défense des droits humains. L'arrestation, suivie de la condamnation à 10 ans d'emprisonnement ferme de nos 10 camarades, suite à une soi-disant agression d'un député de l'Union sacrée visiblement monté de toutes pièces, l'assassinat de notre jeune camarade Ndola Nzazi, l'enlèvement du camarade Luc Moulopoué et l'arrestation du camarade Luc Malemé en Ituri, tous ces faits prouvent à suffisance que nous sommes en face d'un régime dictatorial. Nous dénonçons ces pratiques et nous exigeons la libération de tous nos camarades qui sont actuellement emprisonnés par le régime en place.
Par ailleurs, le PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, exige la libération sans condition de son secrétaire permanent adjoint, Ferdinand Kambéré. Dans un communiqué publié hier, Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, précise que ce dossier est un procès politique monté, selon lui, savamment par le pouvoir en place, utilisant une justice instrumentalisée à souhait, selon ses propres termes. Il ajoute que Kambéré est victime de ses opinions politiques et surtout son appartenance au PPRD, parti de l'opposition pour le moment. Notez que le 7 mars dernier, le ministère public a requis la peine capitale contre Ferdinand Kambéré. Pour rappel, c'est depuis le 20 décembre 2021 que Ferdinand Kambéré a été arrêté et détenu à la prison centrale de Makala pour coups et blessures sur Ardan Kabambi, un collègue de son parti avec qui il n'y a jamais eu confrontation devant le tribunal, sa plainte ayant été retirée. Mais le ministère public a décidé de le poursuivre, puis il a requalifié l'infraction initiale en une tentative de meurtre présumé.
Actualité internationale.
L'envoyé spécial pour le Sahel au ministère français des Affaires étrangères a séjourné 24 heures à Cotonou au Bénin. C'est sa première mission dans ce pays depuis qu'il occupe ce poste. Avec les nombreuses attaques terroristes enregistrées dans le nord du Bénin, le pays intéresse tous ceux qui travaillent sur le sujet. L'ambassadeur français a rencontré plusieurs personnalités béninoises et les partenaires techniques et financiers. Au 20e jour de l'invasion de l'Ukraine, plusieurs quartiers du centre de Kiev ont été touchés par des frappes, alors que la 4e session des pourparlers doit se poursuivre ce mardi. C'est dans ce contexte que les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes se rendent à Kiev.
L'invité.
Il s'agit de Gertrude Kitembo, présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema et l'unique femme au Maniema à avoir brigué le poste de gouverneur de cette province. Elle dirige l'Assemblée provinciale composée essentiellement des hommes. Dans cet entretien, Gertrude Kitembo nous parle des défis et le secret de sa réussite à la tête de l'organe délibérant. Elle s'entretient avec Florence Kiza. Bonjour Madame Gertrude Kitembo-Pala.
Bonjour Florence.
Présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, à ce jour, vous venez de totaliser 3 ans à la tête de cet organe délibérant. Comment vous vous sentez en étant présidente d'une assemblée composée essentiellement des hommes?
Merci Florence pour la question. Je pourrais dire que je ne sens rien d'exceptionnel. Hein. Je suis à l'aise et cela peut-être est dû à mon background. Donc, dans ma petite jeunesse, je pourrais dire que j'étais dans un environnement où il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Après cela, j'ai fait l'école primaire dans une école mixte, où dans ma classe, il y avait toujours plus de garçons que de filles. À l'université, vous imaginez, on était dans une promotion en premier graduat où il y avait à peu près 600 étudiants. Et parmi les 600 étudiants, il n'y avait que 5 filles. Et moi, en tout cas, j'étais à l'aise et je me suis adapté sans problème. Donc, en d'autres termes, je voudrais vous dire que je me sens à l'aise en dirigeant l'Assemblée provinciale du Maniema, où il y a 20 hommes et seulement 2 femmes. Parfois même, j'oublie que nous sommes des genres ou des sexes différents. Je suis à l'aise et je crois mes collègues aussi me considèrent sans tenir compte du fait que je sois une femme et un homme.
Quels sont les défis au quotidien auxquels vous vous confrontez pour gérer cette première institution politique en province?
Quand on gère une institution, en tout cas toute organisation, on est toujours confronté aux défis. Donc, il y a des défis au quotidien. D'abord, le défi d'être dirigeant. Il faut faire un effort pour continuer et faire un effort pour être en permanence à la hauteur du travail que les gens attendent de vous. Nous essayons de faire le maximum. Souvent, c'est difficile, mais nous nous donnons en tout cas au maximum dans ce que nous faisons. Bon, le fait, par exemple, que la province du Maniema est considérée comme la première province du pays arabisé, où souvent, dans la culture arabe, on a une considération amoindrie de la femme. Ça a marqué certaines personnes aussi de notre province. Et nous essayons au quotidien de faire comprendre aux gens que dans les valeurs intellectuelles et morales, les capacités que Dieu nous a données, je crois que Dieu n'a pas mis de différence pour l'intelligence d'un homme et d'une femme. Et ce n'est pas en parlant que nous devons l'éprouver, nous devons l'éprouver par le travail que nous faisons. Nous essayons, en tout cas au maximum, de faire le travail administratif qui nous est demandé comme président de l'Assemblée provinciale. Nous travaillons et politiquement et administrativement. Tout travail n'est pas facile, il y a des défis, il y a des choses que nous entreprenons pour lesquelles nous échouons. C'est vrai, nous les reconnaissons, mais nous voulons aussi nous travailler au quotidien pour que nous puissions de plus en plus travailler pour combattre les choses qui peuvent s'opposer à notre réussite, des choses qui peuvent s'opposer à ce que notre bilan, à la fin de notre mandat, puisse être entaché de beaucoup de négativisme. Donc nous travaillons, nous nous donnons au maximum pour surmonter les défis. Il y en a et il y en aura toujours dans toute organisation. Il y en a qui sont plus puissants que nous ne pouvons pas surmonter malgré les essais, mais nous nous donnons le maximum de nous-mêmes.
Pour parler de vous-même, dites-nous, qui êtes-vous, quel est votre parcours et quel est ton secret d'être véritablement une actrice politique?
C'est vrai, je suis une femme politique. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans la politique. J'ai été plusieurs fois chef de département dans les RCD. J'ai été gouverneur de province. J'ai été ministre national. Et tout ce parcours-là m'a aidé à pouvoir avoir certaines notions et certaines pratiques qui m'aident à gérer l'administration, mais aussi à gérer les personnes. C'est vrai, c'est pas facile de gérer les personnes. On essaie de faire le maximum. Je crois que je suis aussi aidé par le fait que je suis une maman. Je suis aussi manager aussi dans ma famille. Par rapport à mes collègues, je voudrais signaler que un autre atout qui m'aide aussi, c'est que la majorité de mes collègues députés provinciaux, ce sont des gens qui sont plus jeunes que moi, même de très loin plus jeunes que moi. Il y en a une poignée qui ont l'âge de mes enfants. Je me considère comme une maman et moi je me considère comme leur maman. Cela m'aide aussi par des conseils et parfois aussi le respect qu'ils me donnent. Et je les remercie beaucoup pour cela. Ça m'aide à pouvoir en tout cas rester en harmonie bien sûr. Nous vivons comme dans une famille. Dans une famille, il y a toujours de temps en temps des petits problèmes. Je ne pourrais pas dire que je n'ai pas de problème de gestion. Il y en a. Mais nous essayons en tout cas de toujours laver les linges sales, comme on le dit, en famille, au niveau de l'Assemblée. Et nous affrontons parfois des défis, parfois nous ne parlons pas le même langage. Mais jusque-là, nous finissons toujours en tout cas par trouver des compromis. Et nous espérons que ça va continuer ainsi.
Madame Jortit Kitembompala, merci.
Merci.
Notre invitée, présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotachi Vueta. Supervision d'Alain Rung Mushinj, Mimi Kindo à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.